Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes du 103 FM. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale. Et dans une première partie d'émission, c'est Clémence qui s'est entretenue avec Josique de l'association Solidary Food. Il participe normalement à une journée de lutte contre le gaspillage qui devait se tenir le 16 octobre dernier. Elle a forcément été annulée au vu des circonstances sanitaires. Mais Clémence, on a tout de même profité pour discuter avec Josique de l'association de manière plus générale. En deuxième partie d'émission, c'est moi qui vous propose une interview réalisée hier au tribunal d'Angers en compagnie de Laurence Petit du comité de soutien à Vincenzo Vecci. C'est un militant italien qui devait être remis à la justice italienne et dont les discussions étaient en cours entre la France et l'Italie. C'est la cour d'appel d'Angers qui a tranché le cas. Vous aurez plus d'explications dans cette deuxième partie d'émission. Et avant de commencer, une petite annonce tout de même, puisque, vous le savez, nous participons chaque année au budget participatif de la ville d'Angers en étant présent place du ralliement. Et cette année, ça y est, les résultats sont tombés. Je prends donc une petite minute pour vous annoncer les projets lauréats. Il faut tout de même souligner que à peu près 9000 votants ont participé cette année au scrutin. Un chiffre donc qui reste constant d'année en année, tout en sachant que cette année, voilà, avec des circonstances très particulières, un beau résultat donc en termes de participation pour ce budget participatif. En ce qui concerne les projets, on va les faire par ordre croissant en nombre de voix. Il y a donc le projet numéro 6, bien éclairé pour mieux se voir, qui a récolté 1200 voix, je fais les chiffres arrondis hein, pour ce qui est des voix, et qui va permettre, en utilisant différents éléments, d'avoir plus de lumière dans les rues la nuit. Projet numéro 9, avec 1400 voix. Presque 1400 voix, des abris pour les chats errants stérilisés. On avait eu la personne qui nous avait présenté ce projet-là. Il s'agissait de pouvoir donner abri et nourriture à des chats errants une fois stérilisés. Le projet suivant, c'est Il est temps de voir vert, incitation à moins de déchets. 1500 voix, un peu plus de 1500 voix. Encore une fois, il s'agit de petites installations, des poubelles, des cendriers, plein de choses à travers la ville pour essayer, de mettre moins de déchets dans les rues, comme son nom l'indique. Il y a également eu Cultivons nos murs, un peu plus de 2500 voix. Il s'agit de végétaliser différentes façades de différents bâtiments afin de remettre un peu de verdure dans le centre-ville. Projet suivant, le numéro 17, et dont l'école a bougé pour mieux apprendre. Là, encore une fois, vous aviez pu entendre les porteurs de projets sur nos ondes. Il s'agissait d'aider certaines écoles à expérimenter diverses choses pour proposer des éléments pédagogiques un peu différents pour les enfants. Également, le projet suivant, avec plus de 1700 voix, il s'agissait d'expérimenter les vélorues à Angers. Les vélorues, c'est des rues qui donnent la priorité aux vélos par rapport aux voitures. Également un projet que vous pouvez retrouver sur notre site. Il était venu nous en dire un peu plus. Et nous avons également les jardins flottants sur la Maine, projet numéro 34, avec plus de 1800 voix. Il s'agit d'aménager des jardins flottants, comme son nom l'indique, sur la Maine, jardin inspiré des célèbres jardins de Babylone. Enfin, les derniers projets, des bornes de réparation et de gonflage pour vélos un peu partout dans le centre-ville, avec plus de 1800 voix. Des forêts urbaines participatives à la méthode Miyawaki, encore un projet que nous avions reçu, et lui il a eu plus de 2000 voix, des micro-forêts qui permettent de prendre l'air en ville, et enfin pour terminer, des fontaines à eau potable dans la ville avec le projet numéro 1 avec plus de 3100 voix. Il s'agit simplement de redonner le plus possible l'accès à l'eau potable à travers la ville. Voilà donc pour cette troisième édition du budget participatif. Bien sûr, pour suivre l'avancement des projets, pour plus d'informations, c'est toujours sur le écrivon.angers.fr. Et quant à moi, je vous laisse avec Clémence et Josique de l'association Solidary Food. Très bonne émission à toutes et tous.
Solidary Food est une association de lutte contre le gaspillage créée en 2015. Reconnue d'utilité publique, elle est soutenue par la ville d'Angers et anime régulièrement des événements grand public. Joïc, un des trois membres fondateurs et coordinateurs de l'asso, est avec nous au bout du fil. Salut Joïc.
Bonjour tout le monde.
L'association est signataire du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. En gros, c'est 16 mesures pour réduire les 150 kg gaspillés par un Français chaque année, ou tout simplement réduire de moitié le gaspillage alimentaire entre 2017 et 2020. Comment est-ce que vous en êtes venu à signer ce pacte ?
Alors en fait, c'est lorsqu'on a monté l'association, on s'est renseigné sur tout ce qui pouvait exister au niveau du gouvernement, de l'État, quelles étaient les orientations des différents ministères sur la thématique, et on est très vite arrivé sur ce pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça nous paraissait essentiel de le rejoindre, de le signer, de devenir partenaire officiel pour qu'on puisse déjà suivre les évolutions législatives et puis rencontrer d'autres acteurs sur l'échelle nationale qui partagent la même problématique que nous.
En plus de ça, vous obtenez des subventions en plus, ça vous apporte une certaine crédibilité ?
Non, il n'y a pas de financement là-dessus, c'est plus des ateliers participatifs où on va venir décortiquer un peu toutes les mesures qui peuvent être mises en place par les différents acteurs de la chaîne alimentaire en fait, et du coup ça nous permet surtout de partager de la ressource, de la connaissance, des outils aussi pédagogiques, et puis ça permet surtout de recenser ce qui peut se faire à l'échelle nationale et ce qui peut être facilement duplicable sur l'ensemble des territoires.
Il y a quelques années, la grande distribution avait tenté de mettre un coup de projecteur sur les fruits et légumes moches. Par fruits et légumes moches, on entend qu'ils ne correspondaient pas au calibrage. Mais il y a pas mal de groupes qui ont arrêté. Le poids des initiatives locales contre celui des grands groupes, c'est quoi pour toi l'atout du local ?
Bah, l'atout du local, c'est d'abord le fait de bien connaître les acteurs de son territoire. C'est une chose qui est essentielle si on veut pouvoir avancer sur la problématique. Il faut réussir à mettre tous les acteurs autour de la table et il faut réussir à faire fi des différents, de la concurrence, des différentes choses qui sont liées plus à l'économie de marché. Quand on s'attaque au gaspillage, il faut trouver des solutions locales mais globales aussi. Donc c'est d'abord avant tout la connaissance des acteurs pour moi qui est la priorité dans le fait que nous, notamment, on agisse uniquement local sur le territoire d'Angers-Loire Métropole.
Solidary Food, c'est plusieurs terrains d'action. Il y a un vélo smoothie, il y a une tente de fin de marché, des ateliers cuisine, des interventions auprès du public, du privé, des frigos solidaires. On va revenir sur ces différentes options. La tente de fin de marché, est-ce qu'elle est maintenue en ce moment ?
Eh bien, du coup, non. On a dû marquer un temps d'arrêt là pendant déjà les deux premières semaines du nouveau confinement. Donc, on attend de voir un peu quelles sont les directives municipales sur le fait ou non qu'on puisse la réinstaller dès le 14 novembre prochain.
Est-ce que tu peux en réexpliquer le principe ?
Donc le principe, il est simple en fait, c'est qu'avec les bénévoles de l'association, on vient installer une tente, un barnum et des tables à la fin du marché, donc de midi à 14h. Et sur ce stand-là, on va venir demander aux commerçants de nous offrir leurs produits qui sont abîmés ou les produits qu'ils pourraient avoir en surstock ou des choses qu'ils n'arrivent pas à vendre. On va venir les trier, les stocker sur la tente et à partir de 13h30, 13h45, on distribue gratuitement tous ces produits aux personnes qui se présentent sous la tente en fait. Donc l'objectif est de lutter contre le gaspillage sur les marchés de plein air qui est à 600, 700, on a fait 850 kilos une semaine aussi, donc c'est quand même des volumes assez intéressants. Et le fait qu'on l'installe toutes les semaines, ça permet de créer des habitudes et puis de pouvoir surtout, j'allais pas dire convertir, parce que la plupart des commerçants ou des vendeurs sur le marché sont convaincus de fait de l'utilité de la tente, mais c'est plus de créer aussi du lien social une nouvelle fois autour de ce lieu qui s'installe de façon éphémère toutes les semaines.
Et qui est-ce qui vient récupérer les fruits et légumes ? Des familles, des étudiants, des plus jeunes, des plus vieux ?
Alors il y a vraiment un écosystème divers et varié. Il y a vraiment des gens de tous horizons qui viennent. On ne se cache pas qu'il y a des gens qui viennent par nécessité, qui sont dans le besoin alimentaire, mais il y en a d'autres qui viennent aussi par conviction, simplement par envie de participer à la lutte contre le gaspillage en sauvant ces produits-là. Donc il y a vraiment une typologie différente de bénéficiaires.
Vous faites aussi des interventions en milieu scolaire, vous avez pu en faire récemment ?
Alors on était sur des projets assez importants sur cet axe de travail-là, malheureusement c'est mis à mal par la seconde vague du Covid, mais c'est toujours dans les plans et le réseau aujourd'hui qu'on a pu monter permet à ce qu'on soit bien identifié auprès des établissements scolaires au moins de la ville d'Angers. Donc le nom circule et il y a plein de choses qui sont dans les tiroirs pour lorsqu'on pourra reprendre une activité normale.
Et qu'est-ce que vous y faites dans ces ateliers ?
Tout dépend en fait quel public scolaire on vise. Nous, on s'attache plus à viser les collégiens et les lycéens qui ont déjà une connaissance du système et de l'organisation du système alimentaire. Donc, en priorité, ces publics-là, alors, ça vient par de l'enseignement théorique. C'est souvent sur des demi-journées avec un petit point théorique où on va leur apprendre quels sont les enjeux principaux liés au gaspillage alimentaire, les chiffres clés. Et puis on passe toujours, lorsqu'on peut, par de la pratique. Donc on amène des produits abîmés, des produits qu'on a collectés auprès de nos partenaires, des produits anti-gaspi, et on essaye de réaliser une recette simple avec eux à partir de ces produits, dans le but de se dire qu'il n'y a pas plus palpable que d'avoir une pomme qu'on aurait jetée par réflexe à la maison. Ici, on va venir la travailler, même si elle est abîmée sur plus de la moitié ou aux trois quarts, on va récupérer le quart qui est consommable.
Tu disais que vous aviez des partenaires pour justement récupérer des invendus sur les marchés ou autres. Là, pour ces ateliers, par exemple, qui est-ce qui vous fournit les invendus?
Alors, ça dépend. Il y a des règles sanitaires qui bougent suivant les établissements dans lesquels on va. Des fois, on ne peut simplement pas faire rentrer de nourriture de l'extérieur. Donc, on va travailler avec les produits abîmés de la cantine ou les restes qu'il peut y avoir au niveau de la restauration collective. Et puis sinon, on passe par nos circuits d'approvisionnement habituels. Donc, ça passe par des producteurs locaux qui peuvent avoir des restes au champ, des produits abîmés lors de la récolte. Après, on travaille pas mal avec le jardin de Cocagne aussi, qui a un carré aux mines, en fait, au marché d'intérêt national, où ils vont centraliser et récupérer des pertes. Nous, on intervient en bout de chaîne lorsqu'il reste des produits qui sont en surstock. On travaille avec quelques grandes surfaces, avec des commerces en proximité. On travaille avec quelques fois les banques alimentaires aussi, qui peuvent avoir des produits frais qui arrivent à date trop rapidement. Voilà, l'idée, c'est de proposer de récupérer les produits auprès de tous les acteurs de la chaîne alimentaire qui, au bout d'un moment, peuvent en avoir. Pas mal d'acteurs de la restauration collective aujourd'hui aussi. La législation évolue aussi, ça nous permet d'avoir des nouveaux segments de produits qu'on ne pouvait pas avoir avant parce que la réglementation l'interdisait. Aujourd'hui, il est possible d'aller récupérer, notamment en restauration collective, des produits autrefois perdus.
Est-ce que ça arrive parfois que vous cuisiniez les aliments invendus et que vous fassiez des redistributions à des associations?
Alors, on a pu le faire ponctuellement. Après, l'idée, c'est plus d'être sur la construction d'une association, mais qui a un but économique. Donc, nous, notre idée, c'est plus de trouver des modèles à partir de ces produits-là pour leur redonner de la vie, du temps de vie qui permettent de les recommercialiser en fait et d'aller générer après des emplois qui ont du sens et devenir créateurs d'emplois sur le territoire. Donc on passe plus par des prestations de restauration anti-gaspi lorsqu'on distribue. Par contre, il est clair que on est dans une logique zéro déchet, bien évidemment nous-mêmes. Donc lorsqu'on a des surplus sur ces repas qu'on peut préparer pour des prestations ou des concours sportifs par exemple, on redistribue auprès de centres d'abri d'urgence tous les plats qu'on a préparés qui n'ont pas été consommés pendant la prestation.
Maintenant, on va prendre des nouvelles des projets de l'asso. On peut en suivre l'avancée sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait une plateforme de glanage, donc récupérer les fruits, les légumes qui n'ont pas été ramassés par les machines. Est-ce que ça avance?
Eh bien oui, c'est la plateforme EcoGlan. Pour l'instant, c'est le premier nom qu'on a trouvé pour cette plateforme. Et donc, ça avance bien. On travaille grâce à un mécénat de compétences avec une association qui s'appelle Colabi, qui est une association toulousaine qui nous met en lien avec des cabinets informatiques qui peuvent proposer du mécénat de compétences à leurs salariés. Et du coup, grâce à ça, ça va permettre de développer la première version de la plateforme qui sera d'abord en fixe sur un PC et qui viendra se décliner par une application mobile si on rencontre du succès lors du lancement de cette plateforme. Donc sur la partie technique, c'est en train de bien avancer, ça évolue pas mal puisque notamment il y a pas mal d'ingénieurs et informaticiens qui ont un peu de temps libre avec le Covid, donc qui font bénéficier de ce temps-là pour le projet. Et puis sur le terrain, on avance aussi en termes de communication, on est en train de faire connaître le projet auprès de coopératives agricoles, on avance sur des différentes fédérations qui pourraient faire s'inscrire pas mal de producteurs en même temps. Et puis du côté des citoyens consommateurs, on a déjà une centaine de personnes qui sont intéressées et inscrites pour participer aux phases de lancement, de test. On a toujours, la contrainte de la situation sanitaire actuelle qui nous empêche d'aller prospecter sur le terrain, mais sur la partie technique, ça avance bien. J'ai espoir qu'on puisse lancer la plateforme dès janvier 2021.
Oui, en effet, il y a un formulaire qui est disponible en ligne. On doit indiquer le nombre de personnes dans le foyer, s'il y a des allergies alimentaires, etc. Et donc toutes ces données sont gardées et seront réutilisées au lancement de la plateforme, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On est en train de constituer le premier groupe de testeurs de l'application. Donc, c'est des gens qui sont quand même, pour la plupart, impliqués dans l'association sur d'autres projets aussi. Donc c'est des gens qui vont nous aider à avancer lorsqu'on va se retrouver sur le terrain et qu'on sera confronté à une idée, quoi, puisqu'aujourd'hui ça reste encore au stade d'une idée.
Il y avait aussi une histoire avec un crumbler, donc c'est une machine pour broyer le pain. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la poudre qu'on obtient ?
Alors la poudre de pain, elle peut remplacer la farine dans pas mal de recettes, donc ce qui permet de travailler avec une matière première qui est issue de l'économie circulaire, puisque ça part d'un déchet à la base. C'est du pain, nous, qu'on récupère auprès de nos partenaires et qu'on va venir moudre, en fait, qu'on va réduire en poudre grâce à la machine, le crumbler. Et donc cette poudre-là, on compte la commercialiser déjà à l'état brut, comme ça, pour que les gens puissent assimiler les recettes et les refaire chez eux. On s'en sert aussi dans nos ateliers de cuisine et pour nos prestations de restauration, pour remplacer simplement et bêtement la farine de nos plats.
Et le crumbler en lui-même, vous allez faire comment pour l'obtenir ? Vous allez essayer de lever des fonds ?
Alors, on a levé des fonds grâce à une campagne de financement participatif lors du premier confinement. On a vu pas mal d'articles de presse qui alertaient sur le fait qu'on pouvait arriver rapidement en pénurie de farine. Bon, on a utilisé un peu ces articles-là de presse pour faire connaître le projet et puis montrer qu'il y avait des solutions pour un des produits qui est le plus gaspillé en France, le pain. C'est une façon d'être résilient aussi et de profiter, c'est pas le bon terme, mais c'est ça en fait, de profiter de la situation pour faire connaître d'autres initiatives aux gens. Et donc on a financé intégralement l'achat de cette machine grâce aux dons des citoyens consommateurs qui ont participé à cette campagne.
Donc ça y est, vous l'avez ?
On l'a, on est en train de réaliser nos premiers tests de qualité. On est en train de faire des tests sanitaires aussi pour voir les durées de conservation suivant le type de pain qu'on utilise comme matière première. C'est un projet qui va avancer. Aujourd'hui, on est en recherche d'un local aussi pour pouvoir commencer à produire la poudre de pain de façon, pas industrielle, mais au moins semi-industrielle, puisqu'on peut broyer jusqu'à 150 kg de pain par heure grâce à la machine. Donc ça peut permettre de faire rapidement des stocks et de commercialiser cette poudre dans les boutiques vrac angevines pour commencer.
Comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association ?
Eh bien, pour nous rejoindre, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail sur l'adresse solidarifood@hotmail.com. On prend toujours le temps de répondre aux sollicitations, même si aujourd'hui on est malheureusement freiné dans toutes nos activités, donc on a un besoin en termes de bénévoles qui diminue. En même temps, il y a beaucoup de gens qui cherchent à valoriser leur temps aujourd'hui, donc continuez à nous envoyer des mails lorsqu'on pourra agir. On a toujours besoin de personnes en plus pour rejoindre les rangs de l'asso. Puis sinon, pour nous suivre, simplement, il ne faut pas hésiter à suivre sur la page Facebook. Aujourd'hui, on est assez actif sur ce réseau qui permet de constituer une communauté locale et puis se renseigner sur le site internet aussi. On est en train de le faire évoluer, de rajouter des onglets qui vont permettre d'avoir un agenda, des choses comme ça.
Vous avez des locaux ou pas encore ?
Alors aujourd'hui, on n'a pas de locaux à proprement parler à nous. On utilise les cuisines de maisons de quartier ou de la cité des associations, par exemple, pour réaliser nos ateliers de cuisine. On est hébergé auprès de la sauvegarde de l'Anjou, dans la Doutre. Donc ça nous permet aussi d'avoir un petit local qui fait office de bureau lorsqu'on a besoin de se retrouver. Et puis sinon, on est des jeunes, donc on utilise pas mal l'informatique pour communiquer entre nous, les visios, les choses comme ça.
Dernière question, est-ce que tu as un conseil là, tout simple, qu'on peut appliquer pour limiter le gaspillage ?
Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'avec la période actuelle et le confinement, les gens ont tous, pour la plupart, un petit peu plus de temps. Donc ça peut être un moment pour réfléchir ensemble, en famille, au sein du foyer, à changer certaines pratiques alimentaires qui génèrent du gaspillage, comme le fait d'acheter les gros packs de promotion qu'on voit qui nous attirent souvent dans les grandes surfaces, puis commencer peut-être à réfléchir à s'approvisionner en vrac et en produits locaux lorsque c'est possible et abordable.
Merci pour ton passage sur la Covidienne. Je précise le site internet de l'asso pour retrouver les informations essentielles, c'est solidarifood.org, et si vous avez la flemme de chercher, on va vous mettre le lien sur les réseaux sociaux de Radio Campus Angers, le 103 FM.
Thank you.
23, toujours dans la Covidienne sur Radio Campus Angers, et je vous propose maintenant d'aller faire un tour du côté du tribunal d'Angers où je m'étais rendu hier.
Nous sommes dans le tribunal d'Angers où vient de se tenir le délibéré sur l'exécution du mandat d'arrêt européen contre Vincenzo Vecci, un militant italien arrêté en Bretagne où il était installé depuis des années, en août 2019, suite à sa condamnation par la justice italienne pour sa participation aux manifestations contre le sommet du G8 à Gênes en 2001 et à une manifestation antifasciste à Milan en 2006. Alors qu'il risque en Italie 12 ans de prison, c'est la cour d'appel de Rennes qui a jugé en novembre 2019 que la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen était irrégulière. L'affaire a ensuite été renvoyée en cassation devant la cour d'appel d'Angers. Pour revenir sur cette décision, nous sommes en compagnie de Laurence, qui fait partie du très actif comité de soutien à Vincenzo Vecci. Bonjour.
Bonjour.
On va revenir sur le résultat de ce délibéré, mais est-ce que tu peux d'abord, toi, te présenter succinctement et peut-être nous présenter également qui est ce comité de soutien ?
Le comité de soutien, en fait, c'est un comité qui s'est créé quasiment dès la première heure après l'arrestation de Vincent le 8 août 2019. Dès qu'on a su qu'il avait été arrêté, on ne comprenait pas. La première réaction, c'était une grande stupeur, parce qu'en fait, il habitait là depuis 8 ans, il vivait parmi nous, il était actif dans plein de domaines, il se trouve qu'il y a pas mal de domaines associatifs, donc il était bénévole dans plusieurs associations, c'était un ami de beaucoup de gens. On savait qu'il était d'origine italienne, on savait qu'il avait débarqué à Rochefort-en-Terre, on ne lui a jamais posé la question de savoir pourquoi il était arrivé ici et est-ce qu'il y avait un problème qui avait justifié son arrivée. En fait, voilà, les choses sont comme ça, on ne demande pas la carte d'identité aux gens quand on les rencontre. En revanche, dès qu'on a su son arrestation, et qui est une arrestation musclée, hein, il y avait 12 policiers qui ont débarqué sur le lieu où il travaillait, donc on s'est dit, il y a un problème, il se passe quelque chose de grave. Donc immédiatement, on s'est renseigné, on a appris qu'il avait été emmené à la maison d'arrêt de Rennes et ensuite à la prison de Vezin. Et donc on a tout de suite cherché des avocats, on a trouvé un premier avocat qui s'est mis en contact avec lui. Et c'est au travers de cet avocat, en fait, qu'on a compris, qu'on a su quel était le passé de Vincent et quels étaient les problèmes qu'il avait vis-à-vis d'Italie. Vincent faisait partie de ces 300 000 personnes qui ont été au G8 de Gênes en 2001 présente pour dire un autre monde est possible, que le monde épouvantable que vous nous faites, et je crois que 20 ans après, on peut se dire qu'ils avaient complètement raison. Vincent a fait partie de ces 300 000 personnes. Simplement, il a fait aussi partie de ce qu'on a appelé les 10 de Gênes, c'est-à-dire les 10 personnes qui ont été au bout de 16 mois. Il ne faut pas oublier que Vincent n'a absolument pas été arrêté sur place, et non pas les armes à la main, comme ça avait été mensongèrement dit par la justice italienne. Il a été arrêté 15 mois après, et en fait, l'Italie a créé de toutes pièces des accusations contre 10 personnes dont il faisait partie, ce qu'on appelle les 10 de Gênes, sous l'inculpation dévastation et pillage, qui est une loi qui date de l'ère mussolinienne, la loi Rocco, qui a été créée en 1930 sous Mussolini. C'est une loi fasciste et c'est une loi délibérément fasciste dans la façon dont elle a été appliquée aux 10 de Gênes après les événements de 2001 à Gênes. Pourquoi ? Pourquoi ? Simplement parce que l'État, la justice, les forces de l'ordre italiennes ont absolument eu des rôles épouvantables, d'ailleurs dénoncés depuis par la Cour européenne, par des droits de l'homme, par la Ligue des droits de l'homme, etc., par Amnesty International. Les forces de l'ordre ont, mais pas toutes seules, hein, je veux dire, c'est pas le flic qui tabasse quelqu'un, il n'est pas seul, hein, il est évidemment mandaté, il est évidemment sous ordre. Et tout ça, ça a été dénoncé. Il y a même eu d'ailleurs, c'est absolument hallucinant, en 2016, l'ancien chef de la police au moment des événements de Gênes, qui a reconnu publiquement dans une interview que les forces de l'ordre avaient agi de manière délirante, monstrueuse, et que les gens avaient été réellement traumatisés par ce qui s'était passé pendant ces événements. Donc voilà un petit peu le contexte, hein. Il faut savoir que c'est ça l'histoire de Vincenzo. Vincenzo est donc arrêté 15 mois après les événements de Gênes et il est condamné à des peines très lourdes, puisque la fameuse loi Rocco condamne les gens pour de concours moral, c'est-à-dire le simple fait d'être présent quelque part où il y a des délits, même si vous n'avez rien fait, mais vous n'avez pas levé le petit doigt, votre simple présence justifie que vous soyez accusé et que vous soyez condamné. Et les condamnations, elles vont de 8 à 15 ans. Lui, il en a pris pour 13 ans, 12 ans et demi exactement. Donc voilà un petit peu. Donc c'est comme ça que le comité de soutien s'est créé. Quand on a su tout ça, ben évidemment, on s'est, deux jours après, on était déjà 80 personnes à mettre en commun nos intelligences, nos ressources, nos réflexions et aussi nos relations. Je me souviens que dès le dimanche qui a suivi, donc le dimanche 10, l'une d'entre nous a dit « Mais moi, mon père connaît des gens à l'AFP, je vais les appeler. » Il était 11h du soir. À 11h10, on avait des gens de l'AFP qui nous disent « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on va leur raconter ?» On a vaguement entendu dire qu'il y avait un Italien qui avait été arrêté, mais on n'a rien voulu nous dire de plus au greffe. Eh bien, racontez-nous et on va faire savoir. Et donc voilà, ça a démarré comme ça. Et ben, ça fait maintenant presque 16 mois qu'on est mobilisé, qu'on se bat pour notre ami Vincenzo. Aujourd'hui, le verdict rendu est un verdict, je dirais, qui, moi, me laisse un petit peu interrogative. Les avocats, et je leur fais une totale confiance, ils sont magnifiques, ils sont excellents, ils sont complètement investis dans cette affaire. Ils disent que c'est pas si mal, puisqu'effectivement, la loi dévastation et pillage, qui est une loi, je vous le disais, d'inspiration fasciste et délibérément fasciste, a été rejetée par le tribunal d'Angers, qui du coup déclare que les 10 ans qui étaient impartis par rapport à ces délits de dévastation et pillage n'existent pas, ne sont pas recevables. Donc il reste effectivement des peines annexes qui faisaient 2 ans et demi. Et en fait, comme il a déjà effectué en Italie en préventive et puis les 3 mois et quelques qu'il a fait à Vezin en 2019, tout ça ramène à une peine de 1 an et 2 mois. La seule inconnue, c'est qu'il va falloir qu'effectivement tout ça soit... et là, ça me dépasse complètement, je dirais. Mais je suis sûre que dans le comité de soutien, il va y avoir des gens qui vont... D'ailleurs, il y a Pascal Jaouen, qui est une ancienne magistrate et qui nous aide beaucoup pour justement débrouiller un petit peu ces échevaux compliqués. Donc ça veut dire qu'il va falloir maintenant rentrer dans une deuxième phase de procédure pour négocier de la part de l'Italie l'acceptation de ces... que Vincent fasse ces 1 an et 2 mois de peine en France.
Pour aller voir les informations, vous pouvez retrouver tout ça sur leur réseau Soutien Vincenzo et Soutien Vincenzo Angers. On prendra des nouvelles, bien sûr, de cette histoire à l'occasion de la prochaine audience, peut-être d'ici là. En attendant, c'est la fin de cette Covidienne. Très belle soirée à toutes et à tous sur nos ondes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité locale. D'ici là, portez-vous bien.